Construire le lecteur. Rythme, souffle, pénitence. Pour qui ? Pour moi ? Non, bien sûr, pour le lecteur. On écrit en pensant à un lecteur, tout comme le peintre peint en pensant au spectateur du tableau. Après avoir donné un coup de pinceau, il recule de deux ou trois pas et étudie l'effet. Il regarde le tableau comme devrait le regarder dans des conditions de lumière appropriées le spectateur quand il l'admirera accroché au mur. Quand l'œuvre est finie, le dialogue s'instaure entre le texte et ses lecteurs. L'auteur est exclu. Au cours de l'élaboration de l'œuvre, il y a un double dialogue, celui entre ce texte et tous les autres textes écrits auparavant. On ne fait des livres que sur d'autres livres et autour d'autres livres, et celui entre l'auteur et son lecteur modèle. J'ai théorisé cela dans des ouvrages comme « Lector in fabula » ou avant encore dans « L'œuvre ouverte » et ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Il se peut que l'auteur écrive en pensant à un certain public empirique, comme le faisaient les fondateurs du roman moderne, Richardson, Fielding ou Defoe, qui écrivaient pour les marchands et leurs femmes. Mais Joyce aussi écrit pour un public, lui qui pense à un lecteur idéal atteint d'une insomnie idéale. Dans les deux cas, que l'on croit s'adresser à un public qui est là, devant la porte, prêt à payer, ou que l'on se propose d'écrire pour un lecteur à venir, écrire, c'est construire, à travers le texte, son propre modèle de lecteur. Que signifie penser à un lecteur capable de surmonter l'écueil pénitentiel des 100 premières pages ? Cela veut exactement dire écrire 100 pages dans le but de construire un lecteur adéquat pour celles qui suivront. Y a-t-il un écrivain qui écrive pour la seule postérité ? Non, même s'il l'affirme, parce que, comme il n'est pas Nostradamus, il ne peut se représenter la postérité que sur le modèle de ce qu'il sait de ses contemporains. Et y a-t-il un auteur qui écrive pour peu de lecteurs ? Oui, si par là, on entend que le lecteur modèle qu'il se représente a dans ses prévisions peu de chances d'être incarné par la majorité. Mais même dans ce cas, l'auteur écrit avec l'espoir, pas si secret que ça, que son livre crée le nombre, qu'il y ait beaucoup de nouveaux représentants de ce lecteur désiré et recherché avec tant de méticulosité artisanale, postulé et encouragé par son texte. La différence, s'il y en a une, peut résider entre le texte qui veut produire un lecteur nouveau et celui qui cherche à aller à la rencontre des désirs des lecteurs de la rue. Dans le second cas, nous avons un livre écrit et construit selon une recette pour produit de série, l'auteur faisant une sorte d'analyse de marché et s'y adaptant. Ce travail à coup de formule se révèle à l'analyse sur une longue distance. On examine les différents romans écrits et l'on remarque que dans tous, après avoir changé les noms, les lieux et les physionomies, l'auteur raconte toujours la même histoire, celle que le public demandait déjà. Mais quand l'écrivain opte pour le nouveau et projette un lecteur différent, il ne se veut pas analyste de marché faisant la liste des demandes exprimées, mais philosophe qui entrevoit intuitivement les trames du Zeitgeist. Il veut révéler à son public ce que celui-ci devrait vouloir, même s'il ne le sait pas. Il veut révéler le lecteur à lui-même. Si Manzoni avait voulu écouter la demande du public, il avait une formule toute prête. Le roman historique de l'époque médiévale, avec des personnages illustres, comme dans la tragédie grecque, des rois et des princesses, n'est-ce pas ce qu'il fait dans la Delchi ? De grandes et nobles passions, des entreprises guerrières, et la célébration des gloires italiques, en un temps où l'Italie était terre des forts. N'en ont-ils pas fait autant avant lui, avec lui et après lui ? Tous ces romanciers historiques plus ou moins malheureux, de l'artisan d'Azeglio au fougueux et vaseux Guerrazzi, en passant par l'illisible Cantù. Et que fait Manzoni, au contraire ? Il choisit le XVIIe siècle, et une époque d'esclavage, et des personnages vils, et un spadassin, un seul mais félon, et pas de bataille racontée, et le choix courageux d'alourdir son histoire avec des documents et des écrits. Et ça plaît à tout le monde, érudit et inculte, grand et humble, bigot et mangeur de curés, parce qu'il avait senti que les lecteurs de son temps devaient avoir cela, même s'ils ne le savaient pas, même s'ils ne le demandaient pas, même s'ils ne croyaient pas que ce fût consommable. Et que de travail à coups de lime, de scie et de marteau, de lavage et de toilettage pour rendre son produit doux au palais, pour obliger les lecteurs empiriques à devenir le lecteur modèle qu'il avait désiré. Manzoni n'écrivait pas pour plaire au public tel qu'il était, mais pour créer un public auquel son roman ne pouvait pas ne pas plaire. Et malheur s'il n'avait pas plu. Voyez l'hypocrisie et la sérénité avec laquelle il parle de ses 25 lecteurs. 25 millions, il en voulait. Quel lecteur modèle voulais-je quand j'écrivais ? Un complice, bien sûr, qui joue mon jeu. Je voulais devenir complètement médiéval et vivre le Moyen-Âge comme si c'était mon époque, et vice-versa. Mais en même temps, je voulais de toutes mes forces que se dessine une figure de lecteur qui, après avoir surmonté l'initiation, devienne ma proie ou la proie du texte et pense ne plus vouloir autre chose que ce que le texte lui offrait. Un texte veut être une expérience de transformation pour son lecteur. Tu crois vouloir du sexe et des trames criminelles où à la fin on découvre le coupable et beaucoup d'action, mais en même temps, tu aurais honte d'accepter une véritable pacotille faite de fiacre numéro 13 et du forgeron de la cour Dieu. Eh bien moi, je te donnerai du latin, et peu de femmes, et de la théologie à gogo, et du sang par litre comme au grand guignol afin que tu t'écries « Mais c'est faux, je ne joue plus !» Alors tu devras être mien. Tu éprouveras le frisson de l'infinie toute-puissance divine qui rend vain l'ordre du monde. Et puis, si tu es doué, tu t'apercevras de la façon dont je t'ai attiré dans le piège. Après tout, je te le disais à chaque pas. Je t'avertissais bien que je t'entraînais vers la damnation. Mais le beau des pactes avec le diable, c'est qu'on les signe en sachant parfaitement avec qui on traite. Sinon, pourquoi être récompensé par l'enfer ? Et puisque je voulais que soit considérée comme agréable la seule chose qui nous fasse frémir, à savoir le frisson métaphysique, il ne me restait plus qu'à choisir, parmi les modèles de trame, celle qui est la plus métaphysique et philosophique, le roman policier. La métaphysique policière. Ce n'est pas un hasard si le livre débute comme un polar. Et si, jusqu'à la fin, il dupe le lecteur naïf au point que celui-ci peut ne pas s'apercevoir qu'il s'agit d'un policier où l'on ne découvre presque rien et où le détective est tenu en échec. Je crois que les gens aiment les polars, non parce qu'il y a des assassinats, ni parce que l'on y célèbre le triomphe de l'ordre final, intellectuel, social, légal et moral, sur le désordre de la faute. Si le roman policier plaît, c'est qu'il représente une histoire de conjecture à l'état pur. Mais un diagnostic médical, une recherche scientifique, une interrogation métaphysique sont aussi des cas de conjecture. Au fond, la question de base de la philosophie, comme de la psychanalyse, est la même que celle du roman policier. À qui la faute ? Pour le savoir, pour croire le savoir, il faut présumer que tous les faits ont une logique, la logique que leur a imposée le coupable. Chaque histoire d'enquête et de conjecture nous raconte une chose auprès de laquelle nous habitons depuis toujours, citation pseudo-heideggerienne. On comprend alors clairement pourquoi mon histoire de base, qui est l'assassin, se ramifie en tant d'autres histoires, toutes des histoires, d'autres conjectures, tout tournant autour de la conjecture en tant que telle. Le monde abstrait de la conjecture, c'est le labyrinthe. Et il y a trois types de labyrinthes. Le premier est grec, c'est celui de Thésée. Il ne permet à personne de s'égarer. Vous entrez et vous arrivez au centre. Puis vous allez du centre à la sortie. C'est pourquoi au centre, il y a le Minotaure. Sinon, l'histoire perdrait toute sa saveur. Ce serait une simple promenade de santé. Oui, mais vous ne savez pas où vous allez arriver, ni ce que fera le Minotaure. Et la terreur naîtra peut-être. Mais si vous déroulez le labyrinthe classique, vous vous retrouvez avec un fil à la main, le fil d'Ariane. Le labyrinthe classique, c'est le fil d'Ariane de soi-même. Le second est le labyrinthe maniériste. Si vous le mettez à plat, vous avez entre les mains une espèce d'arbre, une structure en forme de racine avec de nombreuses impasses. La sortie est unique, mais vous pouvez vous tromper. Vous avez besoin d'un fil d'Ariane pour ne pas vous perdre. Ce labyrinthe est un modèle de trial and error process. Enfin, il y a le réseau, ou ce que Deleuze et Guattari appelaient rhizome. Le rhizome est fait de telle sorte que chaque chemin peut se connecter à chaque autre chemin. Il n'a pas de centre, pas de périphérie, pas de sortie, parce qu'il est potentiellement infini. L'espace de la conjecture est un espace en rhizome. Le dédale de ma bibliothèque est encore un labyrinthe maniériste, mais le monde où Guillaume s'aperçoit qu'il vit est déjà structuré en rhizome. Il est structurable, mais jamais définitivement structuré. Un jeune garçon de 17 ans m'a dit qu'il n'avait rien compris aux discussions théologiques, mais qu'elles agissaient comme des prolongements du labyrinthe spatial, comme si c'était une musique thrilling dans un film de Hitchcock. Et je crois bien qu'il s'est produit quelque chose de ce genre. Même le lecteur naïf a flairé qu'il se trouvait face à une histoire de labyrinthe, mais où les labyrinthes n'étaient pas spatiaux. Ainsi, curieusement, les lectures les plus naïves étaient les plus structurales. Le lecteur naïf est entré en contact direct, sans la médiation des contenus, avec le fait qu'il ait pensé que, malgré tout, un roman doit divertir aussi, et surtout à travers la trame. Si un roman divertit, il obtient l'approbation d'un public. Or, pendant un certain temps, on a pensé que cette approbation était un indice négatif. Si un roman rencontre la faveur du public, c'est qu'il ne dit rien de nouveau et qu'il donne au public ce que celui-ci attendait déjà. Je crois pourtant qu'il est différent de dire « Si un roman donne au lecteur ce qu'il attendait, il reçoit son approbation. » Et « Si un roman reçoit l'approbation du lecteur, c'est parce qu'il lui donne ce qu'il attendait. » La seconde affirmation n'est pas toujours vraie. Il suffit de penser à Defoe ou à Balzac pour en arriver au Tambour ou à Cent ans de solitude. On dira que l'équation « approbation égale valeur négative » a été encouragée par certaines positions polémiques prises par nous, ceux du groupe 63, et même avant 1963, quand on identifiait le livre à succès au livre commercial et le roman commercial au roman à intrigue, alors qu'on célébrait l'œuvre expérimentale qui fait scandale et qui est refusée par le grand public. Tout cela a été dit. Et cela avait un sens de le dire. Ce sont ces choses qui ont le plus scandalisé les lettrés bien-pensants. Ce sont celles que les chroniqueurs n'ont jamais oubliées, précisément parce qu'elles étaient formulées pour obtenir cet effet-là, en pensant aux romans traditionnels fondamentalement commerciaux et dépourvus de la moindre innovation intéressante eu égard à la problématique du 19e. Alors fatalement, des coalitions se formèrent. On fit flèche de tout bois, parfois pour des raisons de guerre de clans. Je me souviens que nos ennemis étaient Lampedusa, Bassani et Cassola. Aujourd'hui, j'introduirai de subtiles différences entre eux. Lampedusa avait écrit un bon roman hors du temps, et nous polémiquions contre la célébration qui en était faite comme s'il ouvrait une nouvelle voie à la littérature italienne, quand au contraire il enfermait glorieusement une autre. Je n'ai pas changé d'avis sur Cassola. Sur Bassani, en revanche, je serai beaucoup, mais beaucoup plus prudent. et si j'étais en 1963, je l'accepterais volontiers comme compagnon de route. Mais là n'est pas le problème dont je veux parler. Le problème, c'est que tout le monde a oublié ce qui s'est passé en 1965, quand de nouveau le groupe s'est réuni à Palerme pour débattre du roman expérimental et dire que les actes figurent encore au catalogue Feltrinelli sous le titre « Il romanzo sperimentale », avec deux dates, 1965 en couverture, achevé d'imprimer en 1966. Or, ce débat fourmillait d'idées intéressantes. D'abord, le rapport initial de Renato Barile, alors théoricien de tous les expérimentalismes du nouveau roman, qui, à cette époque, réglait ses comptes avec le nouveau Robbe-Grillet, avec Grasse et Pynchon. N'oublions pas que Pynchon est aujourd'hui cité parmi les initiateurs du post-moderne, mais ce mot n'existait pas alors, du moins en Italie. John Barth faisait ses débuts en Amérique, et Barili citait Roussel, redécouvert, qui aimait Verne, et il ne citait pas Borges, parce que sa réhabilitation n'avait pas encore commencé. Et que disait-il, Barili ? Il disait que jusqu'alors, on avait privilégié la fin de l'intrigue et le blocage de l'action dans l'épiphanie et dans l'extase matérialiste, mais que s'ouvrait une nouvelle phase de la narrativité avec la revalorisation de l'action, fût-ce d'une action autre. Moi, j'analysais l'impression que nous avions éprouvée le soir précédent en assistant à un curieux collage cinématographique de Barrichello et Griffi, Verifica Incerta, une histoire faite de morceaux d'histoire, de situations standards, de topoïdes du cinéma commercial. Et je remarquais que là où le public avait réagi avec le plus de plaisir, c'était les points où, quelques années auparavant, il aurait été scandalisé, c'est-à-dire là où les conséquences logiques et temporelles étaient éludées et où ses attentes semblaient être violemment frustrées. L'avant-garde se faisait tradition. Les dissonances d'autrefois se faisaient miel pour les oreilles et les yeux. Une seule conclusion s'imposait. L'inacceptabilité du message n'était plus le critère roi pour une narrativité, pour tout art, expérimentale, car l'inacceptable était désormais codifié comme aimable. Un retour concerté à de nouvelles formes d'acceptable et d'aimable se profilait. Et je rappelais que si au temps des soirées futuristes de Marinetti, il était indispensable que le public sifflât, aujourd'hui, au contraire, la polémique qui consiste à considérer qu'une expérience est un échec par le simple fait qu'elle est acceptée comme normale est sotte et improductive. C'est se référer au schéma axiologique de l'avant-garde historique, et l'éventuelle critique avant-gardiste n'est autre qu'un marinettien attardé. Répétons que l'inacceptabilité du message pour le récepteur n'est devenue une garantie de valeur qu'au cours d'une période historique très précise. Peut-être nous faudra-t-il renoncer à cette arrière-pensée qui domine constamment tous nos débats, à savoir que le scandale devrait être la preuve de la validité d'un travail. La dichotomie entre ordre et désordre, entre œuvre de consommation et œuvre de provocation, tout en ne perdant rien de sa valeur, devra elle aussi être réexaminée sous un autre angle. Je crois qu'il sera possible de trouver des éléments de rupture et de contestation dans des œuvres qui apparemment sont des consommations faciles, et de s'apercevoir en revanche que certaines œuvres, qui semblent provocatrices et font encore bondir le public, ne contestent absolument rien. Ces jours-ci, j'ai rencontré quelqu'un qui était envahi de soupçons et de doutes parce qu'un produit lui avait trop plu. Et ainsi de suite. 1965. C'était le début du pop art, et donc les années où les distinctions traditionnelles entre art expérimental, non figuratif, et art de masse, narratif et figuratif, devenaient caduques. Les années où Pousseur, parlant des Beatles, me disait « Ils travaillent pour nous », sans s'apercevoir qu'ils travaillaient pour eux. Et Cathy Berberian allait venir, qui nous montrerait que les Beatles, arrivés à Purcell, comme il se devait, pouvaient être interprétés en concert aux côtés de Monteverdi et Satie.